Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus nombreux à ce café scientifique sur la circoncision, un thème qui a déjà commencé à soulever le débat dans l'actualité, comme nous le verrons tout à l'heure. Je voudrais juste vous signaler en préliminaire à cette discussion que si vous voyez ces grandes lumières, c'est parce que nous sommes filmés aujourd'hui dans le cadre de l'université. Ce seront des séquences qui seront diffusées sur notre site. Multimédia oblige, puisque maintenant il faut de l'image, du son et des images qui bougent si possible pour attirer le public et donc faire connaître nos cafés scientifiques plus avant. Et aussi, ce sera l'occasion pour vous de retrouver l'intégralité, alors en audio, du débat de ce soir. Pourquoi ce thème ? Il faut savoir que les thèmes des cafés scientifiques sont définis une fois par an, et nous avons déjà pressenti que ce serait d'actualité en septembre dernier. Donc, parce qu'en septembre dernier, il y avait effectivement ce jugement du tribunal de Cologne autour de la problématique de la circoncision, et ce jugement nous a paru intéressant comme point d'accroche. Mais depuis, l'actualité, vous l'avez vu, s'est emballée aussi récemment suite à une décision de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe d'assimiler la circoncision à la liste des violations de l'intégrité physique des enfants. Alors, nous y reviendrons, mais auparavant, pour faire connaissance avec nos intervenants, je vais demander à chacun d'eux, comme c'est un peu la tradition dans nos cafés scientifiques, de brièvement se présenter et dire à quel titre ils sont présents ici ce soir avec nous. Et comme c'est aussi un petit peu de coutume, je vais commencer par l'extrémité droite, sans aucune connotation politique, je précise.
J'espère.
Dominique Sprumont.
Bonsoir, je m'appelle Dominique Sprumont. Je suis professeur en droit de la santé ici à l'Université de Neuchâtel, où j'ai co-fondé l'Institut de droit de la santé avec Olivier Guillot, qui se trouve près de la porte, il y a 20 ans. On vient de fêter nos 20 ans, donc je suis ici plutôt pour apporter un éclairage juridique sur cette problématique.
Docteur Jean Martin.
Bonsoir mesdames et messieurs. Je m'appelle Jean Martin, j'ai été longtemps médecin cantonal dans le canton de Vaud, où j'ai été amené à m'intéresser beaucoup à des questions médico-légales et médico-éthiques. Je suis membre, avec le professeur Guillot qui vient d'être mentionné, de la Commission nationale suisse d'éthique, et je suis aussi membre d'un comité international de bioéthique de l'UNESCO. Juste une chose sur les positions que je présenterai, j'ai servi avec passion l'État de Vaud, j'ai été un serviteur public heureux. Cela étant, j'ai aussi appris, je crois, qu'il y a des choses que la loi et l'État ne savent pas faire adéquatement. Et je le dirai tout à l'heure, il me semble que l'État ou la loi ne savent pas vraiment, ne sont pas les bons auteurs d'un règlement de la question de la circoncision rituelle.
Voilà, monsieur le rabbin.
Oui, donc Menachem Margulies, puisque rabbin de la communauté de la Chaux-de-Fonds, et je suis donc là en tant d'abord que diplômé S-circonciseur et circoncis, et également en spécialité de la douleur, et je vous parlerai évidemment de la circoncision par le regard du judaïsme.
Merci. Monsieur Hafid Ouardiri, vous avez un micro.
Oui, Hafid Ouardiri, je viens de Genève, je suis musulman, circoncis bien sûr, et j'ai été pendant 30 ans le porte-parole de la Grande Mosquée de Genève, et aujourd'hui je dirige la Fondation pour l'entreconnaissance. Je parlerai donc du point de vue de l'islam sur la question de la circoncision.
Bonsoir, mon nom est Vincent Barras et j'enseigne l'histoire de la médecine et de la santé à l'Université de Lausanne, en particulier aux étudiants en médecine et à d'autres étudiants. Et donc, ma perspective est celle, disons, d'une perspective anthropologique et historique. Ce n'est pas mon rôle et mes convictions privées ne regardent que moi, mais c'est plutôt d'apporter un regard critique en fonction des disciplines que je représente, l'histoire et l'anthropologie, sur cette question.
Alors, avant de donner la parole à la salle, j'aimerais lancer peut-être le débat avec cette dernière actualité que nous avons aussi relayée sur nos réseaux sociaux. cette actualité, c'est cette résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui avait été adoptée début octobre et qui place la circoncision pour motif religieux dans la liste, je cite, des violations de l'intégrité physique des enfants. Fin de citation. Donc, au même titre que, par exemple, l'excision. L'opposition a été vive, immédiate, notamment en France, où le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, au nom de la liberté religieuse, l'a évidemment attaqué, cette décision. Ils ont concrétisé cet acte par une pétition qui, aujourd'hui, a récolté plus de 5 000 signatures. Je pense que c'est encore un peu plus parce que ce matin, c'était 4 009 et puis c'est tout de suite passé à 5 100 entre deux clics. Donc, ça va effectivement très vite. Et c'est vrai que le débat semble effectivement assez passionné autour de cette question. Alors, j'ai envie d'avoir un peu votre opinion à vous tous par rapport, d'une part, cette résolution et de savoir, au fond, dans nos sociétés laïques, je précise, qui est-ce qui doit avoir le dernier mot en la matière ? Est-ce que c'est vraiment la religion ? Est-ce que c'est l'intégrité de l'enfant ? Encore faut savoir, évidemment, définir les différents termes qu'on a là, sachant que ces deux notions font quelque part partie de la Charte des droits de l'homme. Alors on cristallise effectivement une contradiction là où on est effectivement un peu emprunté entre deux manières de penser. Alors peut-être d'abord les premiers concernés, peut-être Monsieur Hafid Wardiri d'abord, et ensuite le rabbin Menahem Margulies.
Puisque le terme de laïcité a été utilisé, je crois qu'aujourd'hui, au nom de la laïcité, on se permet de dire tout et n'importe quoi, et souvent, on se permet de cacher une certaine forme de racisme ou d'islamophobie ou d'antisémitisme. Ça, c'est pour dire ce que je pense d'emblée sur ce type d'attitude ou d'intrusion en ce qui concerne l'expression de la foi des uns et des autres. Secondo, en tant que musulman, je suis tout à fait respectueux de l'intégrité de l'enfant, je suis respectueux de la liberté des parents, je suis respectueux de toutes ces valeurs, mais je crois qu'il faut éviter que confusion il soit entre les unes et les autres de ces valeurs. Donc il est important d'éclairer. En ce qui concerne la Cour européenne des droits de l'homme, je crois qu'elle essaye de dire quelque chose, mais qui reste extrêmement confus. On lui demande, en ce qui nous concerne, plus de clarté dans tout cela.
Monsieur le rabbin.
Alors d'abord, une information peut-être qui m'est parvenue et que je voudrais vous partager avec vous. C'est une information qui m'est parvenue du congrès des rabbins européens qui est dirigé par le rabbin Pinchas Goldschmidt, qui est le grand rabbin de Moscou, et qui, suite à ce vote, était à Strasbourg au Parlement et a eu l'occasion donc de parler avec une grande partie des votants et a eu la surprise, la triste surprise de découvrir à quel point les votants étaient ignorants sur le sujet. Et en parlant avec eux, avec un premier sentiment déjà, était que si on refaisait le vote, les résultats ne seraient pas forcément les mêmes, peut-être que la majorité serait préservée, mais en tout cas pas dans les mêmes proportions. Et je crois que c'est un élément déjà important, c'est qu'on prend ici pour base un vote dans lequel les gens n'étaient pas forcément très au courant des éléments sur lesquels ils se prononçaient. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être moi-même. Je vais certainement ce soir utiliser des notions que je ne maîtrise pas. Et on est obligé, évidemment, on ne peut pas être spécialiste en tout. Et les parlementaires sont appelés à voter sur beaucoup de choses. Et souvent, peut-être un petit peu rapidement. Le dernier élément, c'est simplement par rapport à la notion d'atteinte à l'intégrité. Il faudrait peut-être là aussi préciser, est-ce que véritablement c'est une atteinte à l'intégrité Est-ce qu'on peut si facilement définir la circoncision comme une lésion irréversible, telle que les termes ont été utilisés? Donc, voilà, je pose d'abord des questions en demandant de préciser le sujet pour qu'on puisse donner des véritables définitions avec un petit peu plus de connaissances.
Alors, vous avez parlé de lésions, et c'est peut-être, je vais solliciter l'avis de Dominique Sprumont, puisque Institut de droit de la santé, je sais que vous défendez pas mal les patients. Alors, par rapport à cette question-là, quelle est votre position pour définir? Est-ce que la circoncision fait partie, selon vous, d'une lésion corporelle irréversible?
Juste avant de répondre à cette question, je crois qu'il faut quand même préciser que le fait de qualifier la circoncision comme étant ou n'étant pas une lésion corporelle simple ou lésion corporelle grave, ne signifie pas d'emblée que la circoncision est nécessairement condamnée par le droit. Donc la qualification de la circoncision comme lésion corporelle, je dis ça en préavis pour pas qu'on rentre trop vite dans un débat qui pourra être intéressant, mais je crois qu'on doit d'abord poser les bases. Et de ce point de vue-là, il est clair que la circoncision peut et doit être considérée comme une lésion corporelle au sens du droit pénal. Alors, est-ce que c'est une lésion corporelle grave ou une lésion corporelle simple? La question, elle est ouverte. Lésion corporelle, il y a très clairement. Il y a une... On enlève le prépuce, donc on modifie de manière définitive le pénis des hommes qui sont concernés. Et donc, il y a véritablement lésion corporelle. Ensuite, la qualification de cette lésion corporelle et son appréhension par le droit exigent de prendre en considération. C'est que quand on va chez son médecin et qu'il nous fait une piqûre, il y a également une lésion corporelle. Quand on doit subir, ou quand certains d'entre vous, messieurs, ont des boucles d'oreilles et que vous vous faites percer l'oreille, il y a aussi une lésion corporelle. Les lésions corporelles peuvent aussi être admises, pour autant qu'il y a un motif justificatif, et c'est ce dont on va parler ce soir.
Jean-Martin ?
D'abord un mot sur la laïcité. Donc, je rappelle que ça n'est pas la laïcité que j'appelle exacerbée à la française, n'est pas le régime sous lequel vit la Suisse. Hein. En Suisse, les pouvoirs publics observent la neutralité religieuse. Je note que dans mon canton, qui a une nouvelle constitution depuis 10 ans, les églises protestantes et catholiques sont reconnues comme institutions de droit public, la communauté israélite est reconnue d'intérêt public, et les communautés musulmanes, si elles le demandent, en remplissant un certain nombre de formalités, pourrait aussi être reconnu d'intérêt public. Donc, il ne faut pas comparer, je crois, enfin, quant à moi, je ne suis pas un adepte de cette laïcité exacerbée à la française. Alors, le fait est, là, je viens à la suite de Dominique Sprumont, il y a donc une lésion, et en termes d'éthique et des principes fondamentaux d'éthique dont j'ai été amené à beaucoup m'occuper, en principe, on ne fait pas, on ne permet pas de lésion physique à une personne qui n'est pas capable de discernement, donc avant que cette personne soit capable de discernement. S'agissant d'une circoncision, on pourrait imaginer qu'à partir de 11-12 ans, le garçon musulman ou juif peut donner un consentement éclairé, mais il ne peut pas certainement à 8 jours, comme le demande la règle juive. Cela étant, alors moi je suis convaincu, parce que comme serviteur public, je me suis beaucoup intéressé aux conséquences de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, particulièrement l'État, sur la convivialité dans la société. Je suis convaincu que l'importance qu'accordent nos concitoyens juifs, respectivement musulmans, à cette pratique, prévaut largement sur la qualification, effectivement, d'une atteinte à l'intégrité physique que représente la circoncision, y compris chez les nouveau-nés. Donc, je crois que là, il faut peser les risques ou les avantages ou les dangers qu'on fait courir à la société, à sa convivialité, en adoptant des attitudes, cas échéant, jusqu'au boutiste, en termes juridiques. C'est comme ça qu'on a... Dominique Sprumont disait que le tribunal de Cologne a été mal interprété dans les médias. Moi, comme je l'avais compris, c'était une attitude jusqu'au boutiste juridique que je regrettais.
D'accord. On est pour la paix des confessions, hein, quelque part, si je peux résumer un peu.
Sûrement. Pour la convivialité et le respect de la neutralité religieuse et la liberté de religion et d'expression qui est garantie par notre Constitution. Alors, il y a lésion. Il y a lésion en termes d'éthique théorique. C'est embêtant, voire ce n'est pas acceptable de le faire chez des personnes qui ne peuvent pas se déterminer librement. Un nouveau-né ne peut pas. Mais l'interdiction, pour ces motifs théoriques puristes, l'interdiction de la circoncision me paraîtrait amener beaucoup plus de mal à la vie de la société que de bien.
D'accord. Vincent Barras, je profite de votre profil d'historien pour, ben, d'une part, donner votre avis par rapport à cette résolution et puis les actions qui s'en sont suivies, mais aussi de nous rappeler peut-être, en tant qu'historien, au fond, depuis quand est-ce qu'on pratique la circoncision et pour quel motif on a commencé à la pratiquer ? Voilà.
Je précise que je ne suis pas un historien de la circoncision.
Non, j'imagine. Ce
serait et je n'en connais pas réellement qu'il l'ait fait de façon historienne, technique, au sens d'une discipline scientifique. Il y a énormément d'histoires sur la circoncision. Je pense qu'il manque encore une ou plusieurs histoires de la circoncision. Ce que je peux dire, c'est que... Alors, je commence par répondre à votre deuxième question. Depuis quand ? Comment on le sait depuis un certain nombre de siècles, depuis qu'on a une tradition écrite liée en Occident principalement aux deux religions monothéistes que sont le judaïsme et la religion musulmane. Et on sait que c'est dans le cadre de ces deux religions, mais également dans d'autres cadres culturels particuliers, la circoncision est pratiquée. On ne sait pas si elle est pratiquée auparavant, étant donné que les restes que nous pouvons observer des humains avant, ne permettent pas de savoir si ces humains-là ont été circoncis. Ce n'est pas sur un bout d'os ou un fragment de molaire qu'on peut déterminer si l'homme de Néandertal était circoncis. Donc on n'a pas d'idée très précise de l'origine effective, historique de cette pratique-là. Ce qu'on peut savoir, et ce qu'un historien de la circoncision devrait commencer par faire, c'est savoir quels ont été les justificatifs, et en particulier les justificatifs d'ordre médical ou hygiéniste qui ont été donnés à cette pratique. Ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, ça a été une justification qui me paraît être très ancienne, aussi ancienne même que les récits qui entourent les premiers faits disons, de circoncision qu'on peut attester historiquement parlant. Autrement dit, c'est une pratique qui a été accompagnée très vite, d'après ce que je peux savoir, d'un discours de justification. Qu'il soit justifié ou non, ça je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un discours et c'est une pratique, je veux dire, c'est une pratique qui est accompagnée de sa propre justification. Ce qui, en soi, est un phénomène intéressant, qui ne va pas de soi. Et cette justification n'est pas uniquement d'ordre religieux ou d'ordre lié à une pratique communautaire spécifique, mais lié à des justifications qui dépasseraient au fond le cadre de la communauté en question qui la pratique, mais qui seraient liées à un ordre plus général, celui de l'hygiène par exemple, ou celui de tel ou tel type de justification. Voilà ce que je peux dire sur les origines de la circoncision à ma connaissance. Quant au débat actuel, à propos, que peut dire un historien face à cela ? Il peut constater que cette pratique très ancienne, à certains moments, il me semble que le moment que nous vivons aujourd'hui est particulièrement significatif et probablement nouveau, cette pratique de la circoncision, à certains moments, provoque des débats, et il n'y en a pas tant que ça, et probablement que la période contemporaine, les 10 ou 20 dernières années, sont la période de la controverse autour de la circoncision. Et un historien devrait commencer à se poser la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en parle autant ? C'est ma réaction face à ce qui se passe aujourd'hui dans les journaux depuis une année, avec ces arrêts de tribunaux à gauche à droite. Pourquoi ? Et comment ? Comment est-ce qu'on le fait ? Et là, je ne peux que constater que les arguments qui sont avancés par les adversaires ou les partisans de la circoncision sont là aussi très souvent tournent autour de justificatifs, alors qu'ils peuvent être un anthropologique. On vient d'en entendre quelques-uns par là, dans la bouche de mon ami et confrère Jean Martin, anthropologique religieux ou voire politique, mais aussi, et ce que je trouve ça intéressant, d'ordre médical. Cet ordre médical a pu être mobilisé en faveur de la circoncision. Il est bien de circoncire puisque ça prévient le sida, etc., dans des motifs épidémiologiques. Études en cours
qui, d'après ma connaissance, ne prouve ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, et arguments médicaux contre, précisément, la médecine n'a pas à s'occuper de ce type de lésion, c'est une atteinte à l'intégrité physique, et la médecine étant le symbole de la modernité, cette pratique est moyenâgeuse, obscurantiste ou autre. Là, je sais pas, je décris pas mon avis, je décris le type d'argument pour ou contre, qui relève d'ailleurs d'une idée de la modernité de la science et qui font qu'aujourd'hui le débat est polarisé dans ces termes-là. Donc voilà ce que peut dire à ce stade un historien de la controverse actuelle.
Merci, je sens M. Wardiri piaffer d'impatience pour apporter des compléments sur l'aspect historique.
Oui, pour une bonne et simple raison, c'est que musulman, je savais qu'à un moment ou à un autre, dans cette société, on allait remettre en cause certaines des pratiques qui font ma vie quotidienne au niveau de ma foi. Donc même sur le point de vue même anthropologique et sociologique, j'ai été un peu chercher ce qui se passait au niveau de l'histoire en ce qui concerne la circoncision. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, ils peuvent lire le dossier, les recherches qui ont été faites par Paul Lafarge. Il remonte assez loin et on retrouve des traces, peut-être non pas sur les molaires ni sur les os de ceux qui sont déjà partis, mais sur les dessins que nous a laissé l'histoire de ces peuples qui ont existé bien avant nous. Alors on retrouve la trace de la circoncision aussi bien chez les Incas que chez des peuplades africaines, qu'on appelait à l'époque des peuplades barbares, entre guillemets. On retrouve ça chez les vieux Éthiopiens, l'ancienne Éthiopie. Donc ce n'est pas quelque chose qui a à voir directement avec les Hébreux ou avec les arabo-musulmans. Donc c'est vrai que la circoncision a toujours été pratiquée avec une référence ou une explication à cela. Chez les uns, elle avait un rôle purement social, d'autres initiatiques, d'autres religieuses et autres. Donc à chaque fois que cela se faisait, on avait une raison de le faire. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter à ce qui a été dit par notre ami.
Merci beaucoup. Dominique Sprumont, vous voulez rebondir ?
C'est bien de faire de l'histoire ancienne, mais de l'histoire contemporaine, ce n'est pas inintéressant non plus. La motivation de ce café scientifique, vous l'avez dit hein, en introduction, c'est qu'il y a eu un arrêt de deux cours allemands de l'année passée qui a traité de circoncision. Mais il faudrait revenir à ces arrêts puis voir ce qu'ils disent. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon de 4 ans qui subit une circoncision et qui, suite à cette circoncision, 2 jours après, doit être hospitalisé parce qu'il a des saignements. Donc on constate qu'il y a eu un problème. Mais il faut savoir que cette circoncision, elle a été faite par un médecin. Donc c'est important parce qu'on dit justement qu'on doit médicaliser la circoncision pour éviter les risques d'effets secondaires. Ça présente une garantie pour la protection de l'enfant. Mais dans le cas particulier, cet enfant, ça ne s'est pas si bien passé, ou en tout cas, il n'a pas de chance pour lui, il y a ces effets secondaires. Et là, alors qu'on... Là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un juge d'instruction qui décide qu'il doit investiguer. Et il ouvre une action et ça aboutit à un premier jugement par un tribunal de première instance qui ne condamne pas le médecin. Il ne condamne pas le médecin, mais dans son jugement, il se prononce sur un fait qui juridiquement me paraît pas faux, de dire que la circoncision constitue une lésion corporelle. Et donc que les conditions de la lésion corporelle selon le code pénal allemand sont remplies, mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas de condamnation. Le juge d'instruction se voit donc débouté dans son action et il fait recours, et il va à l'équivalent de notre cour cantonale, il va à Landesgericht, au niveau supérieur. Même résultat. Donc la cour, l'équivalent de notre cour cantonale, dit... Oui, les conditions de l'adhésion corporelle sont remplies, mais dans le cas d'espèce, ils ne condamnent pas le médecin. Alors moi, ce qui me surprend comme spécialiste de droit médical, c'est qu'on méconnaît complètement le fait que cet enfant a eu des saignements et donc peut-être qu'il y a eu une négligence médicale. Et là, de ce point de vue-là, il y a matière à dire que le médecin aurait pu être condamné, mais dans aucun de ces deux jugements, il y a condamnation. À partir de là, et ça c'est... Ça qui serait intéressant d'étudier d'un point de vue historique, c'est qu'on se saisit de cette affaire. Je vous ai entendu avant parler de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme ne s'est jamais prononcée là-dessus. Et c'est rien du tout, là. On est dans 2 arrêts de cour inférieure allemande qui n'ont pas condamné formellement un médecin qui a fait une circoncision, alors que celle-ci a abouti à des résultats désagréables pour le petit garçon concerné. Là, c'est moi qui vous renvoie la balle. De quoi on parle ? Les juristes ne condamnent pas la circoncision, les tribunaux ne condamnent pas la circoncision. On a deux tribunaux allemands de niveau inférieur qui ont signalé que potentiellement les conditions sont réunies pour qu'il y ait condamnation, mais ne condamnent pas. Ça, c'est un fait historique. Hein, et je crois que c'est important, si on veut discuter sereinement ce soir, de garder ça à l'esprit. On parle d'un non-jugement, hein, pas d'un jugement.
Monsieur Jean-Martin, et puis...
Après, juste un point à propos des pratiques sociologiques, sociales. J'étais très intéressé, il y a une année, de faire un voyage de touriste à Madagascar et de voir une fois la plaque d'un confrère qui disait « Docteur Tetel, pédiatre, pratique la circoncision à l'américaine, enfin, suivant la méthode américaine, dans un pays très pauvre et qui a beaucoup de difficultés. » Puis je me suis renseigné, j'en ai discuté avec nos guides, etc. Et il s'avère que il y a beaucoup de circoncisions à Madagascar et on a été incapable, j'ai interrogé beaucoup de gens, de me dire pour quelles raisons on le faisait. On le fait parce qu'on le fait, parce que ça se fait. Les garçons sont circoncis, mais à des âges différents suivant les groupes ethniques, etc. Les circonciseurs peuvent être, alors sont des docteurs pour les urbains un peu riches, mais ils peuvent être des différents types de praticiens traditionnels et même dans un groupe particulier. On peut désigner un jeune homme de 18 ou 20 ans pour être le circonciseur de la classe de cette année-là. Donc c'était vraiment très intéressant de voir qu'il n'y avait pas de base forte, si ce n'est une pratique bien implantée pour la majorité des garçons. La situation est comparable aux États-Unis, comme vous le savez probablement. On circoncit beaucoup de petits garçons aux États-Unis. Est-ce que c'est des motivations économiques pour ceux qui les circoncisent qui fait qu'on introduit cette pratique très répandue ? J'en sais rien, mais la plupart des Américains ne le font pas, alors même que ça se fait énormément, ne le font pas pour des raisons religieuses.
Alors, juste par rapport à la notion de lésion, je voulais juste revenir sur ce point. Effectivement, dans mon esprit, lésion a une connotation donc de abîmé. Hein. C'est vrai qu'on peut comprendre simplement lésion dans le sens de faire un changement, de toucher, hein, de faire un changement. Et il y a un principe talmudique qui dit « Zachin le Adam shelo befanav ». On peut faire profiter quelqu'un sans qu'il soit présent. C'est-à-dire que quand quelque chose est au profit de quelqu'un, on peut, on peut prendre des mesures, je ne dis pas c'est pas dans tous les cas, dans tous les domaines, hein, je précise tout de suite, mais on peut, dans certains cas, donc, faire quelque chose qui est à l'avantage d'une personne sans sa présence. Par contre, quand quelque chose est au désavantage de la personne, on ne peut pas le faire sans sa présence. Et c'était dans ce sens-là, maintenant, que je veux voir cette notion donc d'atteinte, de lésion, on touche, mais selon, selon donc notre tradition et notre vision sur la circoncision, c'est pour le bien de la personne qu'on le fait. Et après... Pourquoi est-ce que c'est le bien de la personne ? Après, c'est ça le nerf du problème. Mais dans lequel on a entendu qu'il peut y avoir un point de vue médical, qu'il peut y avoir un point de vue historique, un point de vue religieux. Dans la tradition juive, la circoncision est le signe de l'identité. Donc, ce n'est pas simplement un petit détail, un petit élément, c'est le signe de l'identité. Lorsque les Grecs ou les Romains ont voulu porter atteinte à l'existence du peuple juif, la première des mesures qu'ils ont prises, c'était l'interdiction de la circoncision. D'ailleurs, une des premières décisions également au niveau des nazis. Et je voudrais vous donner juste encore une information pour être un petit peu précis, concis. Quelles sont les raisons au commandement ? Nous avons des commandements dans la tradition juive, comme dans toutes les traditions, plus ou moins avec insistance sur le terme. Et nous cherchons les raisons à ces commandements. Et il n'y a pas toujours de raisons qui sont données dans le texte. Il y a des commandements pour lesquels on les appelle les choukim, dans lesquels il n'y a pas de raison donnée. Et puis on me dit, ben, c'est très bien, on a un espoir de progresser et on va découvrir encore beaucoup de choses qui nous permettront de comprendre certaines choses. Mais pour la Mila, on nous dit, excusez-moi, le terme Mila, c'est circoncision, et on avance toutes sortes de raisons et comme pour toutes les commandements, on se demande est-ce qu'il y a une raison pour chaque commandement. Et la tradition juive, une des grandes forces de la tradition juive, c'est de dire non, il n'y a pas une raison, mais il y a un faisceau de raisons. Et dans ce faisceau de raisons, personne ne peut dire c'est moi qui, je connais la raison. On peut avoir plein d'interprétations qui auront toute une part de vérité. Et celui qui détient la vérité pour cela, ben, on n'a pas l'occasion de lui parler tous les jours. Enfin, c'est nous de lui parler, mais pas forcément de l'entendre. C'est pour nous, Dieu, le Seigneur. Et puis, une des raisons qu'on donne, certains juifs disent « Ah, c'est pour des raisons d'hygiène » et reprennent aussi ces termes. Et alors, on ne veut pas leur dire « Non, vous avez tort ou pas, je ne sais pas. » C'est peut-être une des raisons. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Cela fait partie du faisceau. Et quand on regarde, quand même, j'ai fait des petites recherches. J'ai trouvé que il y avait des plans par rapport. Vous parliez du SIDA. Pour l'instant, les derniers chiffres que j'ai vus, je suis pas un spécialiste. Je vous ai dit que j'allais parler de choses que je connais pas forcément, comme les parlementaires. On dirait que la circoncision permettrait à 60% d'éviter le sida. C'est les derniers chiffres que j'ai lus. Et l'OMS et ONU SIDA ont quand même pris des mesures, puisqu'il y a 14 pays africains dans lesquels on a fait des programmes de circoncision pour cela. Alors, je ne viens pas juger leur décision ou pas, je voulais revenir sur le terme par rapport à atteinte, de savoir si l'atteinte est pour le bien, à ce moment-là, est-ce qu'on doit classer toujours toute atteinte et toute lésion et dire cela rentre dans la catégorie de lésion et donc est-ce qu'il y a lieu ou pas d'interdire. Voilà, je voulais simplement rajouter ces éléments.
Voilà, alors pour être tout à fait équitable, on a le point de vue aussi musulman ici et ensuite je donnerai la parole à la salle.
Donc pour le point de vue de l'islam, rien n'est dit dans le Coran concernant la circoncision. Tout cela fait partie de la tradition et la pratique de la circoncision en islam en ce qui concerne les mâles, les enfants de sexe masculin, c'est une relation à l'identité abrahamique. Abraham l'a fait et donc... nous le faisons parce qu'il est celui qui nous a nommés les musulmans, tel que le Coran le dit. Donc, nous avons un lien à lui par ce biais-là. Sans oublier aussi que si l'on remonte dans l'histoire, on se rendra compte aussi qu'à chaque fois, le sang a un lien dans la relation que l'on peut prouver ou montrer au Seigneur, ou bien dans d'autres cas, dans d'autres cultures, la motte de terre, c'était la manière aussi de rendre allégeance au chef de tribu ou autre chose. Donc il y a toujours eu chez les hommes des pratiques qui sont dans ce sens. Pour le musulman, c'est d'abord et avant tout la relation à Abraham, la tradition d'Abraham. Et à partir du moment où le prophète nous enseigne de le faire, eh bien, c'est comme si cela avait été dit dans le Coran. La majorité des musulmans sont donc circoncis, mais il faut dire que dans la communauté musulmane, ce que l'on appelle aujourd'hui les musulmans modernes, certains s'élèvent ou refusent ce principe de circoncision parce qu'ils estiment que dans le Coran, Dieu dit que Dieu a créé l'être dans la manière, de la manière la plus parfaite. Donc comment l'homme viendrait-il à toucher à cette perfection ? Et donc on est dans cette relation entre la tradition et entre la révélation. Mais évidemment que ce qui est dans la, la révélation, dans la tradition, doit rejoindre et compléter ce qui est dans la tradition. Maintenant, quand il s'agit de savoir si, chez les musulmans, nous considérons cela comme, comme une atteinte ou une lésion, disons que les parents sont considérés comme ceux qui ont le devoir de faire ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants afin de pouvoir vivre de manière conforme à leur hygiène, que ce soit mentale ou physique. Alors en islam, on appelle la circoncision at-tahara, qui veut dire propreté. Alors, ce que nous enseigne le prophète, c'est de considérer aussi cette circoncision comme un élément d'hygiène, comme, par exemple, il nous conseille aussi l'épilation du pubis, l'épilation des aisselles, et ainsi de suite. Donc, c'est un enseignement, entre autres, de l'identité qui nous fait rejoindre Abraham. En même temps, on en déduit des avantages au niveau de l'hygiène. Alors évidemment, chacun, comme l'a dit mon ami le rabbin, va trouver l'explication qu'il a. Mais l'explication des explications, nous ne la détenons pas, mais nous pouvons simplement considérer qu'en tant que circoncis, eh bien moi je ne me rappelle pas d'une lésion ou d'une atteinte. Je me rappelle de moments joyeux, extraordinaires, et c'est bien ainsi, si vous voulez. C'est pour cette raison qu'on est un peu partagé entre l'idée que le droit peut se faire de la lésion et de l'atteinte, et puis de ce que nous vivons après que cette, entre guillemets, atteinte ou lésion ait eu lieu. Donc, encore au-delà de tout cela, je sais que dans ma vie, j'ai eu des lésions au niveau, par exemple, d'insultes que j'ai entendues, des choses absolument abominables qui sont pires que ce que l'on peut imaginer comme lésions ou atteintes corporelles.
Merci. Alors, des réactions dans la salle. Oui. Monsieur, voilà, beaucoup de... Alors, monsieur, et ensuite monsieur. Voilà.
Alors, tout d'abord, j'aimerais... Oui, merci. Tout d'abord, j'aimerais... regretter le titre incomplet de ce café scientifique, et j'aurais aimé qu'on ajoute, et monsieur l'a rappelé, qu'on ajoute l'hygiène, l'esthétique et la sexualité. Je suis de religion catholique, enfin élevé dans la foi catholique, je suis circoncis et mes deux garçons le sont aussi. Voilà, ça c'est pour la prescription. Pour l'hygiène, qui est déjà mentionnée chez Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, c'est pas nouveau, l'intervention chirurgicale est décrite comme bénigne. Et chez l'enfant et l'homme non circoncis, il faut le préciser, il y a desquamation des cellules épithéliales du gland qui s'accumulent dans le sillon balano-prépucial qui forme une substance blanche, désagréable, et qui est un risque d'infection. Et cette substance qu'on appelle le SEGMA, et ça nécessite chez l'enfant une hygiène soutenue très particulière. Et en plus de ça, il faut ajouter le problème du phimosis aussi, qui est l'anneau prépucial étroit, qui est un problème aussi. Ça, c'est pour l'hygiène. Du point de vue esthétique, les hommes et les femmes sont nombreux, majoritaires, pour estimer plus esthétique le sexe d'un homme circoncis. Si vous pouvez poser la question, c'est courant.
Alors on va poser la question. Poser la question à la salle. Peut-être mesdames.
Et je termine.
Alors, laissons terminer, monsieur.
Je termine par la sexualité. Je vous en passe les raisons, d'ailleurs, mais la durée du plaisir sexuel est plus longue chez l'homme circoncis que chez l'homme qui n'est pas circoncis. Voilà.
Encore faut-il qu'il puisse comparer les deux états. Parce qu'en général, c'est... Alors, des réactions autour de la table. C'est vrai par rapport à l'aspect hygiéniste. Moi, je voudrais juste pour compléter la remarque de monsieur que sur notre fil Facebook, nous avons une remarque d'une personne qui nous a mentionné le prépuce, donc la petite peau qu'on enlève lors de la circoncision, comme une des rares parties auto-nettoyante du corps. Alors, on a vraiment deux visions, je crois, qui s'apprennent. Parce que ça, c'est une partie humide. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut partager cette question d'hygiène.
Juste une remarque, simplement pour dire que dans ce débat difficile et qui demande beaucoup de pondération, moi, je suis modérément convaincu par le mélange d'arguments. C'est-à-dire que je crois que ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des groupes sociaux, anthropologiques, ethniques, chez qui c'est important et qu'on doit avoir pour eux du respect, sous réserve, cas échéant, d'autres considérations. Les aspects, c'est vrai que les hommes qui ont été circoncis sont à risque moindre, les études notamment montées en Afrique, s'ils ont été circoncis. OK. Ça peut être une raison de promouvoir la circoncision, mais ça ne me paraît pas fondamental dans le débat d'aujourd'hui, enfin dans le débat de fond qui me paraît le plus important. Et vous avez raison, vous avez évoqué, on peut toujours avoir pour n'importe quel organe du corps des complications, des abcès, des inflammations. Là aussi, je vous entends bien, je ne crois pas que ce soit des éléments fondamentaux dans cette affaire.
Sur cet aspect-là, je crois qu'au contraire, si on veut défendre la circoncision du point de vue de l'effet préventif sur la transmission de maladies infectieuses, ben, on se trouve très rapidement confronté à un problème, parce qu'ici, le problème, c'est de faire la circoncision sur des enfants incapables de discernement et des enfants en très bas âge. Très bas âge, très jeune, jusqu'au 8e jour. Et là, la justification de la transmission de maladies sexuelles s'annule. Et donc, elle devient problématique. Je rejoins la position de Jean-Martin. Si on veut positionner ce débat, je crois qu'il y a des arguments qu'il ne faut pas nécessairement mettre sur la table parce qu'ils s'éliminent d'emblée. Si c'est pour des questions hygiéniques, à ce moment-là, laissons le jeune homme attendre l'âge de sa puberté pour lui présenter les arguments. L'association des pédiatres américains a pris position en 2012 sur le fait que la circoncision, effectivement, pouvait présenter plus de bénéfices que de désavantages. Il est vrai que la population américaine est proportionnellement plus circoncise que le reste des populations dans le monde. Mais il faut savoir que le nombre de personnes circoncises aux États-Unis est en baisse constante depuis les années 90. Donc aussi, là, il y a des choix de société. Je rejoins parfaitement Jean-Martin. Il y a des modes, des choix de société qui font qu'il y a des modifications. Mais donc, dans notre discussion d'aujourd'hui, je crois qu'il est dangereux d'invoquer des arguments de santé publique pour justifier la circoncision sur des enfants incapables de discernement, dans la mesure que ces enfants-là ne sont pas concernés par les bénéfices de cette circoncision du point de vue de leur propre santé ou de la santé d'autrui.
Alors, je voudrais juste quand même... on partage le micro. Pas forcément l'avis, mais le micro. Je voudrais juste revenir sur deux points. Un, c'est pas sur... C'est vrai, alors tout d'un coup, on parle d'hygiène, de médicale, etc. C'est peut-être pour aller, personnellement, ce n'est pas pour ça que je suis pour la circoncision, c'est clair, je vous rejoins tout à fait. Simplement, quand dans un débat, il y a on émet un avis, on fait un vote, etc., en prenant certains arguments, parfois ben, on est obligé, et puis il est bon de revenir sur le même terrain, pour débattre sur ce terrain-là, et pour prouver que les arguments sur ce terrain, déjà, ne sont pas forcément valables. Donc, on n'évoque pas ces éléments en disant, voilà, ce sont les éléments principaux pour lesquels nous le faisons. Non, je l'affirme, en tout cas pour nous. Mais je reviens sur ce terrain par rapport aux votes et aux avis qui ont été donnés pour dire, mais même en venant sur ce terrain-là, les avis qui ont été donnés ne sont pas forcément logiques. Comme je ne suis pas d'accord avec vous par rapport au bas âge, où les enfants ne sont pas encore concernés, parce que c'est peut-être quand même encore le meilleur moment. Je dis toujours en rentrant dans votre sur ce terrain-là, sans venir encore sur le terrain de comment dire plus religieux dans le sens symbolique, si on veut. À 8 jours, enfin en tout cas en bas âge, sans parler encore de ces 8 jours, mais c'est peut-être le moment où sur l'enfant, c'est le plus facile, et c'est le moment où ça va passer le plus facilement sur lui. Il n'est peut-être pas encore concerné, mais je suis horrifié quand j'entends qu'on dit « mais il faut attendre 15 ans et demander à l'enfant s'il veut ». Ben, à 15 ans, un enfant va décider s'il va le faire, excusez-moi, c'est plus un choix à ce moment-là, parce qu'il y a une difficulté évidente. Je dis, il y a une part de choix, mais il y a une difficulté. C'est beaucoup plus difficile pour un enfant, et en particulier pour un adolescent, où on va lui dire, maintenant, tu dois faire le choix et décider. Il va falloir passer en salle d'opération, et avec une chirurgie beaucoup plus lourde que quand on le fait à un bébé. Moi, j'ai appris, je la pratique pas, mais j'ai un diplôme en bonne et due forme du ministère de la Santé israélien. Et donc, dans les choses qu'on a vraiment particulièrement... on a fait des stages vraiment très complets aussi au niveau médical, et c'est vraiment une des choses qu'on a vraiment compris parce qu'on a pratiqué sur des adultes. Au moment de conversion et sur des enfants un petit peu de tous âges par rapport à des circonstances particulières parce que quand ça représente le moindre problème médical, on touche pas. C'est évident, ça fait partie de la même règle qui nous demande de le faire, c'est de ne pas le faire si ça pose un danger quelconque. Et une des choses vraiment qu'on a constaté, c'était que c'était le meilleur moment pour le faire de la manière la plus simple. Et c'est vraiment une atteinte beaucoup plus lourde. C'est une chirurgie déjà quand on doit le faire à un enfant ou à un adulte. Ce n'est pas le cas quand on le fait à un enfant en bas âge.
Pour rebondir sur ce qui est dit, pour les musulmans, aujourd'hui en tout cas, on le fait à 8 jours, comme le font les juifs, chez un médecin qui est particulièrement, un pédiatre qui est particulièrement averti dans ce domaine. Les problèmes qui peuvent apparaître ça et là, c'est lorsque c'est fait par n'importe qui, et à des âges qui sont assez avancés. Alors, pour mon cas personnel, j'ai eu l'occasion d'être circoncis à l'âge de 5 ans. Je me souviens que de choses qui sont positives, et la chose la plus importante dont je me souviens, c'est que dans l'identité de ma foi, cela me rallie à Abraham, qui est le père, le patriarche des monothéistes. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que si l'on est là pour débattre, il faut accepter les arguments des uns et des autres. Il n'y a pas un argument qui vaut et l'autre qui ne vaut pas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un dialogue entre le droit et la foi. Et je peux vous assurer que ce n'est pas un dialogue facile, parce que ceux qui vont débattre au niveau du droit sans foi vont trouver suffisamment d'arguments pour repousser les arguments de ceux qui, pour défendre leur foi, essayent un petit peu d'expliquer cela de manière claire afin que les gens qui sont au service du droit comprennent que nous ne sommes pas hors la loi lorsqu'on pratique la circoncision, sachant pourquoi nous la faisons et à quoi est-ce qu'elle nous amène. Merci.
Alors ensuite, il y avait monsieur qui voulait poser une question, et ensuite monsieur.
Moi, j'associe c'est alors qui met en doute la circoncision du racisme caché et tout juste en bonne tradition macho avec une bonne excuse et un bon raisonnement derrière. Et alors, J'ai opté pour ne pas nous tourner contre les minorités en renforçant notre pensée. Et de nouveau, dans une tradition macho, moi, je suis infaillible, je sais tout mieux, je suis le meilleur. Que nous partageons avec les trois cultures émanant du Moyen-Orient, que le judaïsme, l'islamisme et nous les chrétiens. Alors nous devrions plutôt voir ce qui nous relie à eux, qu'est-ce que nous sépare d'eux. Mais c'était toujours dans les histoires de l'humanité plus facile de déceler la différence et la critiquer que d'essayer d'apprendre, de comprendre. Et alors, nous montrons seulement notre bêtise en ne pas faisant agir notre intelligence et comprendre la différence. Et ce sera, j'opte alors d'être sage, ou essayer d'être sage et de comprendre.
C'est intéressant ce que vous dites, ça rejoint aussi des statistiques qu'on peut trouver. Moi, j'ai trouvé une statistique de l'OMS de 2009, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui estimait à 661 millions le nombre d'hommes de plus de 15 ans qui sont circoncis, donc qui étaient circoncis en 2009, ce qui fait à peu près un tiers, enfin 30%, de la population masculine mondiale. Donc on est dans un consensus de courant religieux, c'est effectivement par rapport à cette question-là, mais n'empêche que vient se greffer là-dessus la thématique de la lésion, tout de même, et c'est la raison du débat de ce soir. C'est vraiment ce regard de qu'est-ce qui est bien pour l'enfant, comme... semble tout le monde le vouloir ici, c'est-à-dire le bien de l'enfant, mais le bien de l'enfant peut être perçu de manière différente en fonction des personnes. Alors.
Merci. Merci à ce qui a été dit là. Moi, je vous rejoins là-dessus. Je crois qu'il faut de la sagesse et c'est vrai qu'il va falloir qu'on puisse s'éduquer à ce que nous partageons en commun pour pouvoir comprendre nos différences et faire qu'elle en soit une richesse pour nous. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on pourrait aussi invoquer la science, puisque nous sommes dans un café scientifique, pour être un arbitre entre justement ce que le droit veut et ce que parfois la foi demande en termes d'identité. Pourquoi est-ce que la science, par exemple, on n'utiliserait pas la science pour faire que ce genre d'opération, ce genre d'intervention au niveau des enfants par rapport justement à la circoncision, il n'y ait pas des moyens qui fassent que cela se fasse de manière tout à fait sans douleur. La science est capable justement de faire en sorte que ce genre d'opération se fasse sans douleur. Et de cette manière-là, on aura ménagé la dimension de la foi et on aura aussi répondu au désir que le droit a de protéger l'intégrité de l'enfant.
Voilà, il y a une question dans la... Ah oui, monsieur, alors monsieur Barras et puis ensuite on passe à la question.
Il me semble que il vaut mieux effectivement invoquer la science pour au sens où ça vient d'être dit pour éventuellement prévenir ou faire en sorte que les choses se passent selon des critères reconnus plus ou moins universellement en termes de sécurité corporelle, d'antidouleur, etc., que de la faire intervenir comme justificatif de la pratique. Ça, je pense que la science, dans un tel cas, ne peut donner que des réponses ambiguës, parce que la science change avec son temps. Il me semble que, cela dit, vouloir uniquement... rejeter les adversaires ou les partisans de la circoncision du côté du racisme, etc., ne fait pas non plus nécessairement avancer beaucoup le débat. Je crois qu'il faudrait, avant toute chose, ou entre autres choses, aussi se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on débat de ça, de cette pratique qui est aussi ancestrale, comme on l'a dit, effectivement, sinon jusqu'à l'homme de Néandertal, c'est une pratique qui est très ancienne. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il me semble que c'est plutôt ça qui motive, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait un café scientifique sur la circoncision? Il y a 20 ans, on ne l'aurait pas fait. Et alors, à ce moment-là, je pense que les questions de la qui sont à la base de cela, ce n'est pas tellement hygiène, pas hygiène, scientifique ou pas scientifique, c'est intolérance ou communautarisme ou rapport politique, religion, rapport nord-sud. Et je pense que c'est là les vraies questions aussi qui se posent,
et
ou qui motivent.
Pas simplement d'être... la question de « touche pas à mon corps hein, », quelque part.
Et, bien, et avec ça, pour, touche pas à mon corps, il y a un siècle, toucher à son corps était une affaire tout à fait différente de celle qui intervient aujourd'hui. Alors, je prends juste un autre exemple, la vaccination. Je m'excuse de... Et alors, on dirait qu'il y a encore rapport. Ici, il y a un rapport. La vaccination aussi est une
c'est
lésion.
C'est vraiment un autre débat. C'est très rapidement.
Je dis ça parce qu'il y a eu des tas de cafés scientifiques sur la vaccination auxquels j'ai participé. Et c'est au fond les mêmes arguments qui sont échangés pour ou contre. Donc, ça sert à... c'est assez intéressant de se poser la question pourquoi est-ce qu'on en débat aujourd'hui ? Parce que la question de l'intégrité du corps se pose à des termes différents. Alors, si on est conscient que la question, une des questions de base, c'est la question de l'intégrité du corps dans notre société contemporaine, à ce moment-là, on n'est pas plus aussi tranché en disant il y a les bons qui sont pour la circoncision et les mauvais pour contre la circoncision. Je pense qu'on fait avancer mieux le débat que si on essaie simplement de justifier à tout prix par l'hygiène, par l'antiracisme, par ceci ou par cela, ou par une soi-disant tolérance, la cause de la circoncision. Je ne pense pas que la circoncision soit une cause à être défendue. Et il faut y réfléchir en des termes différents.
Alors, monsieur ?
Alors, question. Si Dieu existe, je le remercie de m'avoir fait naître dans une république laïque. Parce que je constate que les religions se chamaillent, pour ne pas dire plus, autour de, non seulement entre elles, mais à l'intérieur de chacune d'entre elles, elles se fractionnent et ne sont pas d'accord sur des points fondamentaux. Et si la circoncision est un geste identitaire, je pense que les parents n'ont pas le droit de le faire pour leur enfant dont ils ne savent pas ce qu'il va devenir. Il sera peut-être athée, il passera peut-être d'une religion à une autre. J'aime beaucoup ce précepte hindou qui dit, lors de la naissance d'un enfant, le couple n'a pas le droit de dire « c'est notre enfant, mais c'est l'enfant qui nous est confié ». Les religions devraient faire preuve aujourd'hui, de se mettant à l'heure un petit peu dans le monde moderne qui explore la spiritualité loin des dogmes souvent, comment mon enfant va grandir et l'aider à grandir non pas dans leur propre foi, mais dans un monde qui est étincelant de beaucoup de théories diverses. Et je pense qu'on n'a pas... Tous ceux qui ont eu des enfants voient à quel point ils diffèrent les uns des autres, quand vous en avez plusieurs. Et je pense qu'on n'a pas le droit de circoncire un enfant pour des raisons identitaires qu'il ne partagera pas forcément.
On lui donne un nom quand même. On lui donne un nom quand
alors,
même à l'enfant.
Attendez.
Oui,
oui, oui. Non, mais attendez, oui. attendez. On va donner d'abord la parole à Dominique Sprumont, qui s'est moins exprimé, et ensuite on fera le tour de la table.
Je vous remercie pour votre intervention, parce que...
Oui.
Je vous remercie pour votre intervention. Ça me permet de revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont été dits par mes collègues ici et dans la salle. Je crois qu'il y a un malentendu du point de vue juridique. Et j'aimerais que ce malentendu soit réglé ce soir, une fois pour toutes. Il n'y a aucune condamnation juridique de la circoncision pour des motifs religieux. Il n'y a aucun cas en Suisse, ni en Allemagne, ni dans les pays dont j'ai connaissance, où un rabbin ou un représentant de la communauté musulmane ou un médecin a été condamné parce qu'il a effectué une circoncision sur un enfant mineur incapable de discernement. C'est important de le dire parce que je crois qu'on est en train de démarrer sur des mauvaises bases. Hein.
Je suis pas sûr.
Alors moi, vous montrez le cas, moi je suis un peu Saint Thomas. Hein. C'est le même livre, il est peut-être reproduit différemment, mais dans la Bible, Saint Thomas, il demande de voir. Donc si vous m'apportez du point de vue du droit suisse actuel, j'ai été regarder la jurisprudence, je ne les connais pas. Le droit allemand, je vous ai cité l'arrêt de 2012, le médecin n'est pas condamné. Donc c'est important parce que c'est de ça dont on parle. Maintenant, votre argument est important parce qu'il nous renvoie au droit de l'enfant. Il se pose la question, est-ce que les parents peuvent ou pas décider pour leur enfant, par exemple, une circoncision, mais ça pourrait être une vaccination, ça pourrait être d'autres éléments importants qui vont toucher sa santé, son intégrité corporelle. Moi, ce que je trouve intéressant, je reviens au fait, c'est que si je n'arrive pas à qualifier la circoncision de lésion corporelle grave ou simple, d'un point de vue théorique, concrètement, ce que je constate, si la circoncision était une lésion corporelle grave, les juges d'instruction devraient systématiquement intervenir lorsqu'il y a circoncision pour faire une enquête, pour vérifier si les conditions légales sont remplies. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut regarder si c'est une lésion corporelle simple. Lésion corporelle simple implique que la victime elle-même ouvre une action. Et je n'ai pas trouvé d'arrêt et de cas où un enfant devenu capable de discernement, atteignant l'âge de majorité, se retourne contre ses parents pour sa circoncision. J'en ai pas trouvé. Que des enfants se plaignent ultérieurement d'avoir vécu cette circoncision, qui changent de religion, probablement il y en a. Des témoignages de personnes qui se sentent profondément atteintes dans leur intégrité corporelle, il y en a. Mais la traduction juridique de ces plaintes, je ne la retrouve pas. Et ça, c'est un fait. Je suis content qu'il y ait un historien avec nous. C'est ça qu'on doit aussi regarder. Et donc, du point de vue de la société, ce que je constate comme juriste, les normes, le cadre légal est sujet à interprétation, mais la manière dont la société actuellement, dont l'ordre juridique interprète ces normes, font que la circoncision pour des motifs religieux est parfaitement tolérée et parfaitement acceptée par l'ordre juridique. Les signes indicateurs que cela pourrait changer, ils sont là. On doit être attentif et les comprendre. Et c'est peut-être ça qui nous ramène à ce débat de ce soir. La raison pour laquelle on est là, c'est qu'il y a eu un jugement, deux jugements en Allemagne qui en ont parlé et qui ont été fortement repris et qui ont été notamment juste après repris dans les hôpitaux. L'hôpital de Zurich, juste après ces jugements, a dit « Nous, on va faire un moratoire ». L'hôpital, le CHUV ou l'hôpital universitaire de Genève n'ont pas bougé. Et je crois qu'il avait raison puisque les bases légales n'avaient pas changé. Je crois qu'il faut rester un tout petit peu serein par rapport au cadre légal actuel. Il n'y a pas de condamnation de la circoncision. Il n'y a pas d'éléments qui indiquent que ça va changer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, voire dans les prochaines années.
Aux États-Unis, en revanche, il y a des cas, alors ce n'est pas lié forcément à la religion, mais puisqu'on parle juste de la circoncision, des circoncis américains qui ont attaqué leurs parents en justice en demandant des dommages et intérêts qui serviront à faire des reconstitutions. Non, mais laissons. Pour des demandes de reconstitution de prépuces. Voilà. Donc, ça existe quand même.
C'est les États-Unis, ça.
Ah oui, on parle de cas américains, mais bon, à l'heure globale, voilà. Monsieur.
Juste rebondir sur le.
Monsieur Wardiri.
Moi, je suis ravi d'entendre ce que vous dites, cher monsieur. C'est vrai que ce que vous dites n'est pas ce qui a été dit, que ce soit à travers la presse ou à travers les récupérations politiques. Ça, c'est une certitude qu'aujourd'hui, ce n'est pas le droit que l'on connaît, mais c'est les réactions et les récupérations médiatiques ou politiques. C'est ce que nous savons. Et à partir, justement, d'un rien au niveau juridique, on a construit toute une polémique qui, aujourd'hui, a fait que la circoncision est devenue la bête à abattre, alors que réellement, sur le plan juridique, il n'y a rien.
Bon, oui, alors il y avait madame derrière. Une dame. Enfin.
Merci bien, je m'appelle Alice Duport, je suis pasteur de l'église réformée neuchâteloise et française, d'origine. Donc la laïcité à la française, je connais un tout petit peu. C'est pas sur le plan religieux que je vais prendre la parole, bien que c'est un débat passionnant, mais sur la notion de ce que nous transmettons à nos enfants. Je suis aussi mère de famille. Moi, j'étais très touchée par ce qu'a dit monsieur le rabbin et monsieur le représentant de la communauté musulmane sur la notion identitaire. Être circoncis, c'est être juif ou être musulman un petit peu après les 8 jours, un petit peu plus tard. De nos jours, nous ne transmettons plus rien à nos enfants sous prétexte de les laisser libres. On voit ça aussi dans le protestantisme ou dans le catholicisme. On attend de baptiser les enfants, qu'ils aient l'âge de comprendre. C'est très bien, c'est tout à fait respectable, ce n'est pas quelque chose que je conteste. D'un côté, on lit dans la presse que nos enfants ne sont plus éduqués, qu'il y a des lacunes dans l'éducation, que les parents manquent d'autorité, que les enfants n'ont plus de repères culturels par rapport à leurs origines. Il y a ça d'un côté, peut-être moins en Suisse qu'en France, mais en tout cas, en France, c'est un débat qui est constant. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que dès la naissance d'un enfant, dès qu'on lui chante une berceuse en Suisse allemand ou en anglais, on lui transmet quelque chose de ce que nous sommes. On lui apprend le Notre Père, on lui apprend à dire « Petit Jésus, protège-moi cette nuit ». On ne touche pas son intégrité physique, mais on lui donne quelque chose. Je ne parle pas des vaccins. On lui dit « Les cours de maths, c'est important pour ton avenir ». On l'oblige à faire quelque chose. On lui dit « Mange tes épinards, tu verras comme c'est bon ». Il n'est pas d'accord, on l'oblige. On transmet quelque chose de notre culture et de ce que nous sommes. Pourquoi est-ce que là, effectivement, la question a été posée par l'historien, tout d'un coup, ça devient impossible. Donc, toute protestante, parpaillotte et française que je suis, je défendrai le droit à la circoncision pour nos amis juifs et musulmans et tous ceux qui aimeraient le pratiquer. Quant à l'esthétique, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat.
D'abord, je voulais juste, avant de m'excuser auprès de monsieur, parce que j'ai répondu un petit peu brutalement, et puis je voudrais m'en excuser d'abord. Et effectivement, je pense, par rapport à ce que dit madame, la question, elle est effectivement, où est-ce qu'on met la limite dans ce qu'on apporte? Et je crois qu'on veut faire profiter nos enfants. On veut les faire profiter, leur donner l'éducation fait partie de cela. Et après, il y a des discussions sur qu'est-ce que l'éducation, jusqu'où ça va. Et je vous citerai un texte de la Mishnah, du Talmud, dans lequel justement on parle de la circoncision. Et le texte dit, c'est placé dans le sens, dans un sujet dans lequel on dit qu'est-ce que l'éducation, quels sont les devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants et quels sont les devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est aussi une manière de dire le devoir, ça existe aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas, mais il y a aussi des devoirs dans la vie. Et le texte dit que les devoirs du père ou de la mère par rapport à l'enfant, c'est de lui apprendre un métier, de lui enseigner dans le texte est indiqué la Torah, donc de veiller à ce qu'il est pour un garçon la circoncision, et de lui apprendre à nager.
Ah oui,
vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Et mon père rajoutait et conduire. Et mon maître. Et mon maître rajoutait et à se conduire. Alors, c'est effectivement c'est ce côté de où est-ce qu'on met la limite et là c'est une discussion effectivement de toute façon où chacun va mettre les limites. L'important, je crois aussi, c'est de pas imposer aux autres les limites. Et c'est pas la loi. Je reviens sur ce que vous disiez aussi. Je crois pas que c'est forcément la bonne solution que ce soit la loi qui fixe ce genre de limites. Il y a dans d'autres proportions, certainement, mais pas dans ces domaines-là. Je ne crois pas que ça soit la meilleure chose. Et je voudrais juste vous citer quelque chose, une histoire qui m'est arrivée. Il y a quelques années, je participais à une circoncision. Il y a quelques années, ça fait 28 ans, à une circoncision d'un adulte qui était venu d'un des pays de l'Est où la circoncision était interdite, où les juifs n'avaient pas le droit pour motif religieux de faire la circoncision. Donc pendant tout le temps qu'il y avait le bloc de l'Est, c'était dans beaucoup de pays un problème réel. Et il a donc pu la faire à l'âge de 45 ans. Et j'ai assisté à cette circoncision. Et avec un chirurgien, on était en salle d'opération, et il était tout à fait conscient, c'était avec une anesthésie locale. Et je vais vous dire que c'était au niveau sensibilité, pour moi, c'était la circoncision la plus impressionnante que j'ai vécue de ma vie. Parce que cette personne a participé, était toute joyeuse. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, ah, quelque part, c'est un petit peu dommage qu'on le fasse si tôt, parce que j'ai vu sa joie. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir fait à 8 jours. Et qu'on me l'ait fait à 8 jours. Oui, mais lui, il ne m'a pas dit qu'on me l'ait fait. Il m'a dit, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir fait à 8 jours. Et quelque part, ça a été une source de beaucoup de réflexions. Ce jour-là, dans lequel j'ai compris qu'est-ce que moi j'avais ressenti à ce moment-là, mais ça m'a renvoyé à nos textes, à beaucoup de réflexions, et je crois que j'ai encore mieux compris finalement pourquoi c'était fait si tôt.
Alors il y avait monsieur derrière, puis ensuite.
Oui, alors, dans. Dans les religions, il y a de nombreuses traditions qui me dérangent. La circoncision n'est pas de celle-là. Donc ça ne me dérange pas du tout. Je remercie M. Wardiri d'avoir évoqué la question, le mot douleur. Parce que je pense que des arguments qui, pour l'instant, ne sont pas encore venus, mais qui risquent de venir progressivement ces prochaines années à ce sujet-là, c'est bien la douleur ressentie par le nouveau-né.
C'était il y a 15 ans, là. On l'a vécu déjà.
Oui. Mais parce que, j'entends, il y a 20-30 ans, on nous disait à peu près que les nouveaux-nés ne ressentaient pas grand-chose. Maintenant, c'est très différent. Et encore tout récemment à la radio, j'ai entendu un pédiatre expliquer en quoi, en s'occupant de prématurés, très grands prématurés, il faisait très attention à ce qu'ils ne ressentent pas de douleur. Donc ça, c'est quand même un peu nouveau dans notre société de tenir compte de la douleur du nouveau-né, alors qu'on était... Il n'y a pas si longtemps que ça, on considérait que vraiment un nouveau-né, il pouvait supporter beaucoup sans vraiment sentir de douleur. Alors j'entendrai volontiers des propos à ce sujet-là de la part de la table ronde.
Il est clair que si l'on peut éviter la douleur, il faut tout faire pour l'éviter. Mais si je dois remettre en contexte, dans le contexte, ma propre circoncision quand j'avais 4 ans et demi, la douleur, je ne la ressentais pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'ambiance qu'il y avait autour était telle qu'elle anesthésiait ma douleur et elle la transformait en joie. Ça peut paraître impossible à comprendre ou à croire. Et je ne donne pas cet argument pour faire le plébiscite pour la circoncision ou contre la circoncision. Mais je crois qu'il est important de remettre ces actes-là, là où ils se font avec l'environnement qui est présent. Maintenant, c'est clair qu'on le fait chez un pédiatre et tout cela. L'anesthésie, je crois qu'elle est nécessaire. Le contrôle médical est nécessaire. Et je crois, encore une fois, que la science devrait nous apporter un moyen pour concilier le désir du droit à l'intégrité de l'enfant, dans ce cas-là, aux valeurs identitaires de cet enfant. Et je dis simplement que si on s'acharne pour interdire, puisqu'il a été question que ce n'était pas interdit, qu'il y a eu mauvaise lecture de deux jugements et qu'il y a eu une instrumentalisation politique et médiatique, si, par hasard, on aboutit à des interdictions, on risque de créer des situations impossibles, parce que les gens ne lâcheront pas cette valeur à laquelle ils attachent beaucoup d'importance, et à ce moment-là, on finira par faire des zones noires. Et je crois que dans un pays de droit, dans un pays de science, dans un pays de respect, il faut faire en sorte que tout cela se fasse dans l'harmonie la plus grande possible.
Merci beaucoup. Il y avait une question là.
Oui, bon, je viens de Madagascar, une étudiante ici depuis un mois, et je voudrais intervenir pour les remarques de monsieur sur... La circoncision à l'américaine à Madagascar. En fait, les statistiques que moi je vais vous donner ici, c'est des statistiques personnelles, donc je n'ai pas fait d'études sur ça. Mais chez nous, la circoncision se fait à 60% à peu près, la population. Donc les familles, ils le font pour des enfants de 2 peut-être jusqu'à 8 ans. mais d'habitude, ça se passe en bas de 5 ans. Et la raison pour la circoncision, c'est quand on n'est pas circoncis, on n'est pas un vrai homme chez nous. Et aucune femme n'en veut, en quelque sorte, façon de parler. Et il ne peut pas être enterré dans le tombeau familial. C'est ça. Et ça nettoie aussi l'impureté dès la naissance, à la naissance, je veux dire. Et ça protège contre l'inflammation du pénis, ce qui est très fréquent chez nous, dans les pays chauds. Et aussi, la façon dont ça se fait, c'est, disons que la décision, elle vient surtout de la famille, parce que c'est, il y a des gens, il y a des familles qui ne sont pas circoncis. Ce sont des choix, il y a beaucoup de raisons. Mais en tout cas, les raisons que j'ai citées tout à l'heure, si ça se fait, dans quel cadre? Et si ça se fait, des fois, il y a des couteaux, des fois, il y a des ciseaux. À l'amateur, vraiment, c'est bien de le dire quand même, il ne faut pas se voiler la face. Et puis, oui, on chante, on danse, comme monsieur l'a dit. Et puis, c'est comme le choix du baptême ou tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et je suis d'accord avec madame. C'est un choix de la famille, donc. Donc, le faire quand on a genre 15 ans ou 20 ans, ça, je vois rarement chez nous. Ce n'est pas un débat, il faut faire, et c'est comme ça chez nous. Donc, voilà, la forme aussi, comme monsieur l'a dit. Moi, je sais reconnaître, désolée. Et côté esthétique, il n'y en a pas, voilà. Mais je respecte ceux qui ne le font pas. Par contre, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, comment est-ce que les inflammations ou bien les dégâts qu'il y a après les circoncisions, ils peuvent être évités? C'est informer peut-être les gens sur la façon de le faire et celle qui est à l'américaine, parce que celle qu'on fait d'habitude, les blessures ou les plaies, ils sont à peu près 2 semaines pour que ça soit sec et que ça fait plus mal. Mais à l'américaine, genre, tap, c'est fini. Voilà.
Je vous laisse. Il y a une chose. Alors, je signale simplement tout à l'heure que mon intérêt pour la circoncision lors de ce voyage à Madagascar avait été stimulé par le fait que j'avais vu un pédiatre avec une plaque. Ici, on pratique les circoncisions américaines. Je n'ai pas du tout dit que c'était généralisé dans le pays. Il y a un point tout de même dont je pense qu'il est important qu'on l'évoque dans ce débat, c'est toute la problématique des hôpitaux qui, tout d'un coup, sont mal à l'aise, refusent, n'entendent plus faire de la circoncision, à cause notamment du débat un peu chaud, et qui était certainement en partie dû au fait que les médias ont peu à faire en été, quoi, et saisissent un peu n'importe quel sujet. Mais il faut rappeler alors que, clairement, le professionnel de santé, le médecin, respectivement l'hôpital, mais en principe les professionnels de santé, ont le droit de refuser de faire des actes qui sont contre leur conscience, contre leur éthique personnelle, sous réserve du fait que ça ne représente pas des inconvénients majeurs pour le patient. Hein. C'est-à-dire que, notamment, s'il y a urgence, le médecin doit faire un curetage d'une fausse couche. Si en ne le faisant pas, la femme risque d'avoir une grave hémorragie, et même s'il n'est pas favorable au curetage ou à l'interruption de grossesse. Donc là, il y a cette liberté des professionnels de santé, et par extension, on peut dire, il y aurait celle des établissements sanitaires. Étant entendu, alors je crois que pratiquement, il y aura jamais une sorte d'interdiction systématique, notamment dans ce pays, au motif de la tolérance qui est, je crois, assez claire à cette table et dans la salle. Et on ne va pas vers une position de la corporation médicale, par exemple, qui prendrait des positions rigides, anti. Par contre, chaque membre de cette corporation a le droit, cas échéant, de dire « allez donc chez mon confrère ».
Je voulais revenir juste sur le sujet. Vous avez parlé, on a parlé de méthode, et vous parliez de la, de la douleur. Quand j'ai fait la formation de circonciseur, le premier endroit où on nous a amenés, c'était justement dans le service des grands prématurés, pour nous montrer à quel point il y avait un ressentiment chez les grands prématurés, et à quel point donc, c'était un élément qu'on devait prendre en compte et qu'on devait surtout pas ignorer et pas dire justement ne vous inquiétez pas, de toute façon il sent rien et tout. Faut pas non plus exagérer dans l'autre sens, mais faut garder des proportions. Et effectivement, lorsqu'on pratique chez la plupart, je veux pas dire la totalité, ça serait pas vrai, la plupart des moalim, donc des circonciseurs, prennent des mesures de antidouleur pour le bébé, soit alors certains font par par des pressions, font par une anesthésie avec piqûre, et puis ça c'est pire que tout, parce que ça fait plus mal que la circoncision, mais en tout cas avec des pommades ou des médicaments qu'on peut donner contre la douleur à l'enfant, des pommades anesthésiantes et locales, et on doit effectivement, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Vous en parliez par rapport au devoir de la science et au devoir de l'homme. Personne ne doit avoir de volonté de faire souffrir et surtout pas son enfant. Hein. Je dis, on veut le protéger de tout, on cherche son bien, donc le but est certainement d'éviter aussi de lui amener des souffrances. Vous me permettrez une petite blague ?
Je crois que ça mérite.
Alors, il y a une maman avait vu partir son enfant d'un milieu ultra-orthodoxe aux États-Unis pour aller trouver du travail, et il est parti avec une grande barbe et les papillotes et son chapeau. Et elle le voit revenir, elle ne l'a pas vu pendant toute cette période, et il revient après 4 ans, et sa maman le voit arriver sans rien sur la tête, avec un beau costume, des petites lunettes, et elle le voit tout inquiet, elle s'approche de lui, elle lui dit « mais c'est bien toi, mon Moïchele ?» Et puis il lui dit « oui, c'est moi, maman, mais tu sais, dans la vie professionnelle, je pouvais pas rester comme ça. » Et alors, elle lui dit, mais pour manger, tu manges au moins cachère encore. Il dit, tu sais, on a des repas professionnels, c'est pas toujours évident. Et donc, je fais des petites entorses là et là, ici et là. Elle lui dit, mais le Shabbat, au moins, tu écoute, maman, la bourse n'est pas fermée, on travaille dans le monde, donc je peux pas me le permettre. Alors sa maman le regarde, elle lui dit, la circoncision, tu l'as gardée au moins.
Madame, je crois que vous pouvez venir. Je crois que... il y avait madame aussi, mais d'abord monsieur.
Mais je me permets, pour revenir à ce qu'on discutait avant, je risque de ne pas être d'accord avec la majorité, voire la totalité de la salle, mais moi je pense qu'on néglige quand même un peu beaucoup la liberté individuelle de l'enfant, de l'individu en quelque sorte, parce que on parle beaucoup de notions de famille, de religion, qui sont enfin, des notions que je nie pas, mais on vit au XXIe siècle, où c'est que l'individu est quand même beaucoup plus en avant qu'à l'époque. Et puis cette notion de famille un peu archaïque qui justifierait qu'on impose une religion, des pratiques à un enfant, j'ai quand même un petit peu de peine avec ça. Mais j'estime que c'est peut-être pas une bonne chose d'imposer si jeune déjà une croyance, alors imposer des valeurs, amener des valeurs, je suis d'accord, mais je pense que quand on parle de lésion, parce que c'est une lésion, on va peut-être quand même un petit peu loin. Puis je pense que la religion, elle n'a pas à remettre. Avant, j'ai un petit peu entendu dire que, dans quelque sorte, ouais, mais la religion, la lésion selon le code pénal, c'est pas vraiment ce qu'on entend, en fait. C'est la religion qui va définir ce que c'est une lésion corporelle, puis pas le code pénal. Comme si c'était les textes étaient supérieurs à la loi. Et j'ai un petit peu de peine avec ça. Je tenais à le signaler, personnellement, je suis athée, j'ai pas été baptisé, je suis pas circoncis non plus. Donc, et puis je remercie infiniment mes parents de ne pas m'avoir imposé une religion ou une manière de penser depuis tout jeune, et puis d'avoir gardé ma liberté de conscience, de croyance encore à mon âge.
Merci beaucoup de votre témoignage. Alors, ça amène une réponse. Alors, d'abord à M. Sprumont, et puis, puisqu'on parlait de lésions, et puis ensuite, M. Wardiri.
Non, je vous remercie pour votre témoignage, parce que ça nous renvoie à la position du droit actuellement. J'ai clairement dit avant que le droit ne condamnait pas la circoncision pour des motifs religieux. Ça ne veut pas dire qu'elle l'impose. Et je crois qu'on doit être attentif ici. Et j'allais, avant que vous souleviez votre position, j'allais poser la question à nos deux représentants des communautés religieuses, à M. Wardiri ou à M. Margouliès. Je suis père de 3 enfants, j'ai 2 garçons. Admettons que je sois un bon musulman ou un bon juif, à défaut d'être un bon chrétien, et que j'hésite à faire circoncire mon fils. Et je viens vers vous, je suis un bon juif, ou je suis un bon musulman. Puis je me dis, j'aimerais lui laisser le choix, je suis d'accord avec vous. Vous allez me donner la possibilité de vivre ma religion, qu'elle soit juive ou musulmane, avec cette incertitude qui va faire qu'à un moment donné, je vais donner la possibilité à mon fils de faire le choix. Est-ce que vous allez me la donner, cette liberté ?
On peut, de toute façon, personne n'impose à l'autre. Je suis en qu'on appelle guide spirituel à la communauté à La Chaux-de-Fonds. Alors, si on me pose des questions, si on me les pose, je peux donner un conseil, je peux dire ce que je pense, mais la personne qui va être souveraine dans sa décision, c'est chaque individu. Alors, si vous le concevez de cette manière, je vous dirais, ce n'est pas mon avis, ce n'est pas ce que je vous conseillerais de faire, mais je ne vais pas ni vous obliger, ni... ce n'est pas de cette manière qu'on le conçoit, et c'est... Le choix et la liberté individuelle, elle reste qu'elle est. Maintenant, vous pourriez me dire, et la liberté individuelle de l'enfant, on est reparti pour un tour. Mais là, c'est là où rentre quand même, comme je disais, le devoir d'éducation et le choix des parents. Et là, on est dans on reste dans cette question de où sont les limites. Et là, c'est là où on sera peut-être pas d'accord, mais ça rentre dans ce côté de l'éducation et des choix que les parents font pour leur famille.
En ce qui me concerne, je vous dirais, cher monsieur, Dieu vous a créé libre et vous le restez dans vos choix, comme vous le restez dans vos choix par rapport à votre famille. Donc, ce que vous ferez par rapport à votre famille sera le résultat de ce que vous aurez choisi et qui constituerait l'éducation qui est la vôtre et celle que vous aurez souhaité transmettre. Donc vous êtes libre, ce n'est pas à moi de vous donner cette liberté, mais à l'origine vous venez à ce monde avec cette liberté. Je ne dis pas ça pour faire bien, mais je crois que c'est une évidence. Et le jour où on aura compris que tous les êtres humains partent de cette évidence-là, on pourrait comprendre pourquoi ils sont attachés à une ou à l'autre des éducations, ou à l'une ou à l'autre des formes d'identité. Moi j'aimerais juste dire quelques mots à notre ami de Madagascar, qui nous a expliqué un peu comment ça se fait. Je souhaiterais dire que pour la tradition musulmane, c'est une tradition donc qui s'inscrit dans le cadre d'une famille par rapport à un lien identitaire à Abraham. Quant à la circoncision elle-même, et par rebond, je le fais par rapport à la dame qui a dit qu'il fallait transmettre quelque chose à nos enfants, ce qui nous est demandé à nous musulmans dès la naissance de l'enfant, à peine il est sorti du ventre de sa mère, le père ou le frère ou quelqu'un qui a une voix grave puisse chuchoter dans l'oreille droite l'appel à la prière et dans l'oreille gauche la préparation à la prière. Je l'ai fait à ma fille à l'hôpital cantonal de Genève et à côté de moi, il y avait un professeur gynécologue qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Je lui dis, je fais cette tradition parce que c'est celle-là qui nous a été demandée par le prophète à la naissance de l'enfant, c'est la première chose qu'on leur communique. Et il était frappé de voir que cette tradition reposait sur une communication d'un langage grave que l'enfant, à la sortie de son ventre, du ventre de sa mère, c'est simplement les sons graves qu'il peut percevoir. Ça veut dire aussi que l'enfant n'est pas seulement un être dont on dispose comme on veut, mais il a sa sensibilité, il reçoit ça, et après il en fait ce qu'il veut. Il reste libre dans le choix qu'il fait à partir de ce que ses parents lui donnent. Et je reviens vers vous en vous disant que quand quelqu'un meurt, et qu'on lui fait sa toilette rituelle pour l'enterrer, on ne va pas chercher si son zizi est circoncis ou pas. Parce que nous sommes tenus à l'intimité du corps et nous l'enterrons comme il se présente à nous, sans chercher à savoir s'il est circoncis ou pas. Parce que ce n'est pas cela qui définit le rapport à Dieu dans le cadre de l'islam.
Alors, madame qui a le micro.
Je voulais dire deux choses. C'est dans la communauté juive, les Bnei Israël, ce sont les juifs de l'Inde. Pour combattre la douleur, on donne à l'enfant un petit verre de brandy. Bon, ça, c'est juste une petite anecdote. Et puis la deuxième chose, j'étais étonnée quand vous avez parlé de la question d'identité, que c'est l'identité qui est le plus important. Mais en fait, la judéité, elle est transmise par la mère. Et c'est pas, la circoncision ne confère pas à l'enfant la judéité.
C'est un unique élément. C'est un signe, c'est un signe de l'identité. Mais il est clair que ce n'est pas l'unique. Et puis l'éducation qu'on donnera, et oui. Certainement pour donner, l'identité sera certainement aussi importante que le geste de la circoncision, qui est un geste important et symbolique, et qui est appelé dans le texte de la Torah un ot, un signe. Et donc, c'est un signe, mais ce n'est pas tout d'un coup, abracadabra, on a fait la circoncision, on a donné l'identité.
Non, mais il me semble que le principal, c'est de se référer au commandement. Dieu a dit à Abraham, tu circonciras tes fils. Tout vient de là, pour c'est les musulmans aussi.
Oui.
Est-ce que les femmes participent à ces cérémonies ou pas?
La maman est là.
La maman est là.
Alors, il y a encore une toute dernière question qu'on va prendre, la madame à ma gauche, là, et ensuite on va passer à la clôture.
D'accord. Comme l'autre disait qu'il remercie ses parents de lui avoir donné la liberté personnelle de choisir une religion ou pas, moi aussi je dis merci à mes parents de m'avoir donné la possibilité d'hériter de la religion chrétienne. Pour dire que la loi n'a de sens que dans une société. Elle n'a de valeur que dans une société. En Afrique, aujourd'hui, on a banni la polygamie. Dans mon pays, par exemple, la polygamie est interdite. Mais il se trouve que les hommes continuent à avoir une femme, deux femmes, trois femmes. Alors, dans ces conditions-là, je me rends compte que la loi n'a pas de sens parce que les gens, ils la violent. Et donc, finalement, on interdit, mais ça subsiste toujours. Pour dire que la question qui se pose, c'est par rapport à chaque culture. Si une culture estime que la circoncision est une bonne chose et qu'elle adapte sa loi en fonction de cela et que les gens la respectent, en ce moment on respecte le choix de cette culture, de ce pays, et on ne pose pas de problème. On ne va pas imposer une conception de capacité de discernement ou quoi que ce soit à d'autres cultures, à d'autres pays qui estiment que peut-être un enfant de 15 ans n'a pas la capacité de discernement. C'est leur libre choix, c'est leur loi qui a sa base et sa source selon justement ces cultures. Donc il ne faut pas enlever la loi du cadre dans lequel il évolue. Moi, franchement, je le pense sincèrement. Et quand on veut parler de lésions corporelles, il faudrait qu'on attende que l'enfant ait la capacité de discernement. Bon, en griffe, capacité de discernement en Suisse, on va dire 13 ans, oui. En Afrique, peut-être c'est 20 ans, peut-être c'est 21 ans. Mais c'est notre droit aussi d'avoir notre sens de la capacité de discernement. En ce moment-là, le cordon ombilical, on ne le couperait pas puisque l'enfant, il a mal quand on lui coupe le cordon ombilical. Mais oui! Mais oui! L'enfant, on lui impose certaines douleurs pour son bien. Et les conventions européennes disent quoi? Le droit à l'éducation. Accepter bien que chaque parent donne l'éducation qu'il veuille jusqu'à ce que l'enfant soit indépendant. Et chez nous, notre loi permet que justement les parents imposent une religion jusqu'à un certain âge. Et nous ne voyons pas de problème. Nous ne nous sommes pas encore insurgés contre ça. Donc, c'est au niveau européen. Il y a le débat. Ne l'importez pas partout. Ne l'importez pas chez les juifs. Ne l'importez pas. Voilà quoi. Il faut respecter les libertés individuelles de chacun, la liberté de religion de chacun. Moi, c'est mon avis. Merci.
Alors, je crois que ça, C'est une belle conclusion, effectivement. Je pense que les gens autour de la table sont d'accord, puisque l'heure est déjà très avancée. Je voudrais remercier déjà nos intervenants, qui sont venus de Genève aussi, également, de Lausanne, je crois. Et également, je voudrais profiter de remercier l'organisatrice de ce café scientifique, Madame Claudine Assad, du service de presse et communication de l'université. Remercier également à la technique Roland Hamsler pour le son, Antoine Berthoud à l'image, Giovanni Samali à la coordination des réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup de votre grande participation. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon retour dans vos foyers et n'oubliez pas notre prochain rendez-vous, ce sera le dernier de l'année, mercredi 20 novembre, même heure, même lieu, lutte contre la drogue, tout autre sujet, stupéfiante contradiction. Voilà, c'est tranchant. Merci beaucoup.